Entreprises et Habitat, redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Une émission proposée par Sofiap sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Vous le savez, le sujet du logement est un sujet majeur. Redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français, telle est la question. On parle de beaucoup de sujets aujourd'hui, notamment celle du rapprochement du lieu de travail avec le logement, qui est un vrai sujet dans notre pays. On peut même dire que c'est un sujet de société. Avec notre partenaire coproducteur de cette émission, la Sofiap, on va parler justement de ce pouvoir d'achat. À quel point a-t-il été atteint ces derniers mois? Comment sont impactés les ménages? Comment sont aussi interprétées les politiques publiques à l'égard du logement? C'est ce qu'on va décrypter avec nos experts. Dans un premier temps, Grégoire nous présentera tout à l'heure le journal de l'accès au logement. On vous a préparé un panégyrique finalement de tout ce qui s'est fait, ce qui s'est dit en termes politiques, en termes de presse, alors que nous approchons effectivement de la moitié de 2024, qui a été une année pas évidente. Nous aurons ensuite un édito de Laurent Permas, le président du directoire de la Sofiap, qui sera suivi ensuite d'un grand débat avec trois invités qui sont tous des acteurs directs ou indirects de la préoccupation que nous avons dans ce pays d'accéder au logement dans des conditions dignes, dans des conditions correctes et notamment dans les grandes métropoles où c'est le plus gros sujet, bien évidemment. C'est parti pour cette nouvelle collection Entreprises et Habitat et on va parler du pouvoir d'achat immobilier, tout de suite après ça.
Entreprises et Habitat, une émission proposée par Sofiap sur Radio Immo et Radio Territoria.
D'abord, Grégoire, comment peut-on définir la primo-accession si on prend justement le pouls du pays aujourd'hui?
Écoutez, Sylvain, être primo-accédant, tel qu'il est reconnu par les banques, c'est ne pas être propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années. Un primo-accédant, en fait, il peut être locataire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans et il peut être propriétaire d'une résidence secondaire.
Est-ce qu'il existe un accompagnement spécifique pour qu'on comprenne bien le sujet de notre débat tout à l'heure, ce qu'est la primo-accession ?
Oui, il existe en France aujourd'hui plusieurs dispositifs pour un premier achat immobilier. Alors d'abord, vous avez le prêt accession d'Axio Logement qui propose un prêt à taux fixe avantageux. Vous avez le prêt d'accession sociale pour les familles aux revenus modestes. Vous avez aussi un prêt conventionné pour des ménages qui bénéficient d'un taux d'intérêt plafonné. Vous avez le fameux PTZ ou prêt à taux zéro qui intervient en plus d'un prêt complémentaire. Le PEL pour prêt épargne logement pour les détenteurs d'un plan d'épargne logement. Et enfin, le PSLA pour prêt social location accession qui permet de bénéficier d'une TVA plus faible, d'une minoration d'une prix-vente, d'une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans ou d'une réduction des frais de notaire. J'espère que vous me suivez toujours.
Il faut un peu essayer de s'y retrouver, mais pour les Français, ça ne va pas être simple tous les jours.
En fait, cette énumération, Sylvain, c'était pour vous dire que les primo-accédants sont plutôt accompagnés en France et pour cause, ils représentent 60% du marché immobilier.
Alors la question qu'on peut se poser, Grégoire, puisqu'on parle des nouveaux usages, est-ce qu'ils ont évolué?
Oui, Sylvain, leur profil de primo-accédant, il a évolué et il est un peu mis à mal depuis 3 ans. En 2021, par exemple, si on fait une carte d'identité, un profil de ce qu'est le primo-accédant en 2021, il avait 32 ans en moyenne, il gagnait 3232 euros par mois et il avait un apport moyen de 26 941 euros. En 2023, il a 33 ans, il gagne en moyenne 3725 euros par mois et il a subi une forte inflation. Et en moyenne, il a 42 361 euros d'apport. Alors son âge recule, son apport augmente. On demande maintenant plutôt 20% d'apport, d'ailleurs, pour un projet immobilier, alors qu'à l'époque, on en demandait plutôt 10. Donc, le pourcentage d'apport augmente. Et la différence majeure, surtout, elle réside aussi dans le niveau des taux, qui sont 3 fois plus élevés en 2023 qu'en 2021. Des conditions d'achat qui sont donc plus difficiles. Et une récente étude déclarait toutefois que 65% des 25-34 ans avaient toujours l'intention d'investir dans l'immobilier ces prochaines années.
Et forcément, avec pratiquement 450 points de base d'augmentation des taux de crédit, la hausse des coûts, de l'inflation, forcément, ça réduit considérablement. Est-ce que ça impacte même les primo-accédants eux-mêmes?
Oui, Sylvain, le primo-accédant, il peut moins acheter. Sans surprise, c'est à Paris qu'il est le plus impacté. Il va devoir sacrifier en moyenne 38% de superficie lorsqu'il va acheter son bien, contre 26% en 2022. Une perte supplémentaire donc de 12%. Ailleurs, à Toulouse et à Lyon, cet écart atteint même les 18 mètres carrés. Donc c'est quand même assez impactant. A contrario, c'est à Marseille, Montpellier, Lille, Nice et Nantes que la différence est la plus faible. En fait, il faut dire que les banques, elles sont plus frileuses pour prêter pour les primo-accédants. Les taux augmentent et le Haut Conseil à la stabilité financière maintient son taux d'endettement maximal de 35% sur 25 ans. Les temps sont durs pour la primo-accession, Sylvain.
Ça augure plutôt pas mal du débat qui va suivre, bien évidemment. Merci Grégoire Daricot, notre journaliste, pour cet éclairage sur la primo-accession, comment l'entreprise va pouvoir aider ses salariés, parce que là, il y a un vrai sujet entre le logement et bien évidemment l'entreprise, notamment en primo-accession, mais toutes les solutions, tout à l'heure, on parlera même de dispositifs qui ont été mis en place pour permettre une meilleure location aux salariés. Quel rôle peut jouer l'employeur? Pour en parler, je suis ravi d'accueillir d'ailleurs sur le plateau Laurent Permas, le président de la SOFIAP, directeur de la SOFIAP. Bonjour Laurent Permas.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Ravi. Alors, on va justement dans quelques instants, vous allez nous faire votre édito justement sur la situation du logement dans notre pays. Suivrons ensuite un débat extrêmement intéressant. Nous avons d'ailleurs aussi un élu de la République qui sera avec nous. C'est le député Daniel Labaronne, entre autres, qui avait récemment organisé une consultation sur le vieillissement des populations. On en parlera avec lui, un économiste qui connaît bien le sujet. C'est tout de suite après ça.
Entreprise et Habitat, une émission proposée par SOFIAP sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien voilà les amis, nous sommes de retour sur le plateau pour parler de votre pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat immobilier. Vous êtes des entreprises, vous êtes des salariés, vous savez que c'est un vrai sujet. On peut évoquer d'ailleurs deux chiffres. 17% des contrats à durée indéterminée en septembre 2023 n'ont pas pu être signés dans les grandes métropoles, faute de logement. Donc c'est un vrai sujet, bien évidemment, mais on peut aussi prendre un autre chiffre pour montrer en fait que structurellement, il y a un vrai souci dans ce pays avec la politique du logement. Et d'ailleurs, on en parlera avec un député qui sera avec nous tout à l'heure. C'est 12% des étudiants. Vous savez, quand on arrive à la fin du bac, on choisit en Parcoursup des écoles. Des fois, elles sont à Bordeaux, à Toulouse, elles sont à Lyon, elles sont à Nantes. Vous étiez 12% des élèves n'ont pas pu ou ont renoncé à leurs études faute de logement. Laurent, si on prend aujourd'hui le pouls, quel serait, selon vous, le contexte actuel de la politique du logement et de la primo-accession?
C'est un sujet qui est très fort, puisque c'est une crise sans précédent en fait, que nous avons depuis 2 ans, en fait, depuis la remontée des taux. Mais les taux n'est pas le seul coupable, en fait. On a une crise du logement et on a une crise, en fait, plus profonde du pouvoir d'achat immobilier. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui une décorrélation entre mon salaire et le prix du mètre carré. Lorsque, pendant 20 ans, la résidence principale était un outil de spéculation, c'est-à-dire que dans les dîners, on évoquait la bonne vente que nous avions fait pour réacheter.
C'est vrai, vous avez raison. Voilà. On achetait toujours avec cette idée de faire de la plus-value. Exactement. Alors qu'en réalité, c'est surtout le toit qui compte et le logement lui-même. Non, c'est vrai.
Exactement. Donc, c'est la pyramide de Maslow qu'on a totalement oublié. Le toit et me nourrir. Et aujourd'hui, en fait, cette spéculation, qui d'ailleurs n'était pas taxée, puisque les plus-values sur la résidence principale ne l'étaient pas, elle n'est plus possible. Mais vous avez une fracture de pouvoir d'achat immobilier qui est très forte et qui impacte un deuxième sujet qui est la relation avec mon travail, le fait de me déplacer. Et un autre choc est apparu il y a 2 ans, c'est le télétravail. Le post-Covid, en fait, a installé de façon durable le travail à domicile. Et si vous voulez, lorsque vous travaillez à domicile dans des conditions qui ne sont pas pérennes, le lit, le canapé, c'était sympa, entre guillemets, lorsque vous aviez une période Covid. Mais aujourd'hui, lorsque vous faites 2 jours de télétravail par semaine, dans ces conditions-là, l'entreprise aussi a ce rôle, en fait, de regarder dans quelles conditions de travail le salarié, les collaborateurs peuvent avoir tous les jours.
Alors justement, quel est le rôle de l'entreprise? Comment on peut circonscrire le rôle efficient de l'entreprise? Parce qu'il y a un double aspect pour l'entreprise. Il y a le fait d'avoir des conditions de travail correctes, cohérentes. Et c'est vrai qu'il faut quand même se mettre à la place des salariés. Faire 2 heures de transport le matin, 2 heures le soir, c'est juste pas possible. D'ailleurs, dans les souffrances au travail et la pénibilité, les trajets figurent dans les 5 premiers points qui sont aujourd'hui stigmatisés lorsqu'on parle du bien-être au travail. C'est un vrai sujet.
Vous avez entièrement raison. En fait, l'entreprise joue ce rôle, notamment dans la démarche RSE, très impactant, de pouvoir accompagner les salariés sur des grands enjeux de société. Et c'est notamment lié aux avantages sociaux. Donc vous avez des avantages sociaux qui sont liés à la fois à la restauration, le titre restaurant, le CESU pour la garde d'enfants, le soutien scolaire, et puis l'épargne retraite, l'épargne salariale qui permet justement d'accompagner le salarié sur la longévité post-salarié. Mais vous n'avez rien en fait sur l'accession à la propriété qui est la premier angle, la première pierre, en fait, pour préparer la retraite et pouvoir accompagner aussi le salarié, notamment dans cette diminution de la trace carbone, le fait qu'il y ait moins de trajets et de pouvoir être autour d'une zone qui soit respectable lorsque vous faites vos trajets. Donc, ce dispositif d'aide de l'entreprise pour justement pouvoir favoriser l'accession à la propriété des collaborateurs n'a pas été vraiment pensé. On a pensé plutôt à l'aide à la préparation à la retraite, mais par l'épargne financière.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement, on aide aussi assez bien les jeunes. Je prends l'APL, hein, par exemple. Vous me direz, pour le logement, on a aussi la caisse d'allocation familiale pour les enfants qui permet de le faire. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que quelque part, il n'y a pas de dispositif qui accompagne pendant la vie durant, c'est-à-dire au niveau de l'accession à la propriété et de l'utilisation, de l'usage du logement, finalement, un dispositif. Alors, quelles sont les solutions? Alors, vous en avez une, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que le prêt subventionné par l'entreprise dont vous assurez la promotion, c'est une solution qui peut répondre à tous les besoins?
C'est une solution en fait qui répond à l'ensemble des salariés qui souhaitent acheter, qu'ils soient primo-accédants ou réacheter parce que vous avez un enfant, parce qu'il y a l'agrandissement de la famille ou une mobilité. Il y a une étude Ipsos qu'on a réalisée dernièrement qui est très intéressante et qui pose à plus de 80% en fait les salariés qui attendent un dispositif de notamment de leur entreprise pour pouvoir les aider à accéder à la propriété. C'est extrêmement important, ça n'existait pas, et je pense que, bizarrement, on n'a pas pris en compte, en fait, au niveau de l'entreprise, ce type d'aide.
C'est ce qu'on va tout à fait développer, vous avez raison de le mettre là-dessus. On est d'accord, c'est les politiques publiques qui sont concernées. C'est-à-dire que sans décision, sans acte politique, il ne peut pas y avoir de politique structurelle du logement. Qu'est-ce que vous faites si je vous demandais de définir l'appel que vous feriez au gouvernement aujourd'hui?
Il est très simple, hein. On a mis en place en fait un dispositif il y a plus de 20 ans qui est notamment la possibilité pour l'entreprise de prendre en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers des salariés. Donc c'est très concret. On l'a fait depuis 20 ans pour le secteur public. On l'a ouvert au secteur privé. On a aujourd'hui plus de 600 000 salariés qui sont éligibles dans ces dispositifs. Il faut juste l'étendre. C'est une révolution silencieuse.
Non mais c'est considérable.
C'est considérable. On est au-delà du test, si vous voulez. Ça, c'est juste impactant, et les entreprises qui l'ont mis en place s'y retrouvent en termes de politique sociale, en termes de démarche RSE, d'attractivité, et de pouvoir justement offrir un dispositif très concret pour accompagner les collaborateurs à rester pas trop éloignés en fait de leur lieu de travail et d'être dans des conditions aussi de travail lorsqu'ils sont en télétravail. Ça, c'est vraiment structurant. Hein. C'est les deux éléments. Et donc, ces dispositifs. Bah, l'appel, justement, au pouvoir public, au gouvernement, il est très simple. C'est qu'il puisse avoir les mêmes exonérations de charges patronales que les dispositifs d'épargne salariale. Puisqu'il y a un lien évident entre l'accession à la propriété, hein, et notamment aider un collaborateur, puisque c'est de la préparation à la retraite aussi, hein, au-delà de l'attractivité, et le fait d'aider le collaborateur pour qu'il mette de côté un peu d'épargne pour préparer sa retraite. Vous avez une complétude totale entre favoriser l'accession à la propriété et, en même temps, aider le collaborateur à avoir une pension complémentaire. C'est deux épargnes. Il y a l'épargne immobilière d'un côté et vous avez l'épargne financière de l'autre.
Ça augure du débat à venir. Merci beaucoup, Laurent Permas. Vous restez avec nous sur le plateau pour ce débat. À suivre, nous allons recevoir Daniel Labarolle, le député de la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire. C'est quelqu'un qui connaît bien le secteur, qui est aussi un économiste, qui a publié d'ailleurs plusieurs livres, non pas sur le sujet forcément du logement, mais qui connaît bien les mécanismes, effectivement, qui permettent de déployer une politique du logement adaptée. Nous recevrons également Delphine Charles Perron, qui est déléguée générale de la Fédération des entreprises immobilières, qui est une professionnel du secteur qui nous partagera sa vision avec ses solutions aussi, puisque cette fédération met en place des solutions, on en parlera tout à l'heure. Et j'ai aussi, on a souhaité, lorsqu'on a construit cette émission avec notre partenaire, coproducteur, les équipes de la SOFIAB, que l'on remercie d'ailleurs chaleureusement d'avoir préparé cette émission avec nous, nous allons recevoir John Ely tout à l'heure, qui était avec dans le débat, qui est associé au sein de l'entreprise Kern Consulting, qui est en fait la preuve par l'exemple, hein, Laurent, c'est-à-dire que c'est une personne qui a adopté, qui a utilisé le système du prêt subventionné et qui a souhaité, parmi ses équipes, avec ses associés, redonner du pouvoir d'achat à ses collaborateurs. Vous allez voir, c'est assez ingénieux et c'est une idée en tout cas à creuser. Mais l'idée, les amis, c'est essayons. tous ensemble de résoudre cette politique du logement, les problématiques de politique du logement aujourd'hui. Je rappelle simplement qu'on a aujourd'hui 2,5 millions de personnes qui sont inscrites sur des listes pour avoir un logement social, que 62% des personnes qui louent aujourd'hui dans le parc locatif privé seraient éligibles au logement social, que jamais nous avons atteint un niveau aussi bas de production de logements neufs et de production de logements sociaux. Je rappelle que le logement neuf, lorsque vous en produisez correctement, et aujourd'hui je peux vous dire qu'on est vraiment à la traîne, ça compresse automatiquement, mais vous l'avez compris, les prix dans l'ancien, augmentation des prix, augmentation des loyers, donc la subvention de l'entreprise qui aide à redonner d'ailleurs du pouvoir d'achat dans la solution que vous mettez en œuvre, Laurent, est une solution. Le débat à suivre, c'est maintenant.
Entreprise et Habitat, une émission proposée par Sofiap sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bien de retour sur le plateau, les amis, je suis ravi d'être avec vous. Vous l'avez vu tout à l'heure, nous allons essayer de décrypter l'actualité immobilière, mais pas que, c'est au-delà de l'immobilier, bien évidemment, on parle du logement. On parle aujourd'hui du toit, ce qui rentre finalement dans la cellule familiale, qui incarne la sécurité, qui incarne aussi le lieu où se forment les destins professionnels, mais aussi les chemins de vie. C'est aussi le vieillissement des populations. C'est bien évidemment un gros sujet. Et Dieu sait que le logement dans notre pays est un sujet qui pose débat aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur Radio Immo et sur Radio Territoria, la radio des élus. On est ravis d'être avec vous, justement avec des invités qui vont débattre de ce sujet. Bonjour Daniel Labaronne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. C'est votre second mandat de député. Et vous avez aussi un avantage en tant qu'élu, c'est que vous avez été maire d'une commune à Bléré, et vous avez le regard à la fois de l'élu local, préoccupé par le destin de vos administrés, et aussi le regard du Parlement, bien évidemment, lors de l'Assemblée nationale. J'étais d'ailleurs à la consultation que vous avez organisée à l'Assemblée nationale sur le vieillissement des populations, qui est un autre sujet extrêmement, parfois préoccupant, mais en tout cas, qui pose question. Delphine Charles-Perron, bonjour. Vous êtes délégué général de la Fédération des entreprises immobilières. Vous représentez aujourd'hui les plus grosses entreprises du secteur, dont certaines, je crois même la plupart, sont cotées. Et vous êtes ce qu'on pourrait appeler une fédération de bailleurs. On peut le dire comme ça ? Toutes classes d'actifs confondues.
Surtout tertiaire.
Voilà, surtout tertiaire. Voilà, tertiaire, commerce, bureau.
Mais avec beaucoup de projets de transformation d'actifs tertiaires en logement.
Ça, c'est le sujet. C'est aussi un autre sujet qui mériterait une très bonne émission. Au niveau de la régénération urbaine, c'est la transformation effectivement des bureaux en logement, surtout quand on sait que le foncier aujourd'hui devient rare. On a souhaité aussi rencontrer des entrepreneurs qui justement ont mis en place des solutions pour leurs salariés. Je trouve ça extrêmement ingénieux, en tout cas moderne et dont les usages aujourd'hui, dans un monde contemporain qui évolue à une vitesse phénoménale. Il est avec nous sur le plateau, John Jodili, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé au sein de l'entreprise Cairn Consulting. Vous faites du consulting dans le domaine des transports, je crois.
Transport et assurance, tout à fait.
Transport et assurance. Vous aidez les entreprises à se transformer, en fait.
Exactement. Donc c'est à partir du moment où, à partir de décisions stratégiques, on a décidé de prendre un cap, il faut se transformer. Et donc, on accompagne les entreprises à réaliser ces transformations.
Et vous nous expliquerez tout à l'heure, si vous voulez bien, pourquoi vous avez mis en place ce type de solution. Parce qu'on va en parler, justement, de la solution. La solution, entre autres solutions, bien évidemment, parce que Delphine nous parlera tout à l'heure du dispositif que vous mettez en place aussi pour l'accompagnement des salariés, de vos adhérents, sur la location notamment. On en parlera. Toutes les solutions sont bonnes à prendre. L'idée, les mesdames et messieurs, c'est que avec notre partenaire, nous essayons de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Je vais commencer par vous. Bien évidemment, Laurent Permance est toujours avec nous, président de la Sofiap. Merci de nous accompagner. Vous serez avec nous d'ailleurs pendant toute cette collection Entreprise et Habitat, qui va nous emmener jusqu'à Longchamp, la rentrée des entreprises de France au MEDEF, où on va faire un direct cette fois-ci, puisque cette émission, elle est enregistrée. Vous d'ailleurs, pouvez d'ailleurs la récupérer sur toutes les plateformes d'écoute. Je vais commencer par vous, monsieur le député, si vous voulez bien. La crise du logement que nous traversons en France, c'est une crise de l'offre, mais c'est surtout une crise de la demande. Un effondrement de la demande, notamment en matière de logement neuf. C'est aussi une crise inédite, malgré mes 30 années d'expérience dans le métier, que j'ai rarement vue, jamais vue, puisqu'elle est multifactorielle, multiconjoncturelle, dans un contexte géopolitique qui est quand même un peu particulier. Alors, je ne vais pas revenir sur le conflit en Ukraine et la hausse des matières premières qui a quand même fortement impacté, les coûts de l'énergie qui ont bien évidemment été importants, mais on n'a jamais vu aujourd'hui un pic démographique de population aussi inquiet pour son logement et l'accès au logement. Voilà, ma question, c'est quel est votre ressenti ? Et est-ce que vous pensez, très objectivement, que les mesures qui ont été prises aujourd'hui sont suffisantes. Guillaume Kasbarian a annoncé d'ailleurs en commission au Sénat quelle était sa feuille de route qu'il a déployée, plutôt pas mal, plutôt intéressante. On souhaite juste avec nos partenaires que ce soit suivi des faits. Quel est votre constat, monsieur le député ?
Alors, nous avons conscience de cette crise dans le secteur de l'immobilier, à la fois une crise d'offres, une crise de demandes. Vous l'avez dit, c'est une crise multifactorielle. Moi, je retiendrai deux phénomènes. Le premier, d'ordre économique. On a des prix encore de l'immobilier qui restent élevés. On a des taux d'intérêt qui restent également importants. Et puis, un facteur plus psychologique, je crois que les acteurs sont dans l'attente. Et notamment les primo-accédants, tous ceux qui veulent engager un projet d'investissement, parce que ils considèrent que c'est pas le moment, le contexte géopolitique qui est un peu anxiogène, les prix de l'immobilier qui sont encore élevés, les taux d'intérêt qui ne baissent pas suffisamment. Or, moi, je considère qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent permettre à ceux qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent acheter leur résidence principale, il y a beaucoup de solutions pour leur permettre aujourd'hui de réaliser leur projet d'investissement.
Alors, qu'est-ce qui ne va pas, alors ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2,5 millions de personnes aujourd'hui au bord de la rupture ? Qu'est-ce qui fait qu'on a 4 millions de Français qui sont dans des logements, on va dire, relativement dignes ? Il y a un vrai sujet.
Alors, nous avons quand même un système en France où pratiquement les deux tiers des Français sont éligibles au logement social.
Absolument. 62% du parc locatif privé, par exemple, loge des personnes éligibles au logement
Absolument.
Social.
Absolument. Donc, nous avons mis en place un dispositif social très puissant. Nous avons beaucoup construit. Nous sommes un des pays d'Europe qui a le plus construit sur les 10 ou 20 dernières années. Parce que nous avons cette vocation sociale du logement. Bon, alors, face à la conjoncture économique que nous connaissons tous, les pouvoirs publics, le gouvernement, a pris des mesures très très puissantes quand même. Qu'il s'agisse d'acquisition de logements qui avaient été réalisés par Action Logement ou par la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons mis de l'argent sur la table pour aider les bailleurs sociaux à construire davantage de logements. Vous avez évoqué la loi Kasbarian qui va arriver d'abord au Sénat à partir du 17 juin, donc c'est demain, et puis après l'été à l'Assemblée nationale, avec une vraie volonté politique qui est de relancer l'offre de logements à travers différents dispositifs que je pourrais évoquer.
Il était temps, puisque après 4 gouvernements et 5 ministres du logement, il était temps qu'on s'y penche un peu. Mais très bien, très bien. Je suis obligé de vous faire cette question de journaliste, bien évidemment, parce qu'on vous la pose tous les jours. Mais je trouve très intéressant que l'exécutif aujourd'hui prenne conscience, enfin, de cela. Delphine Charles Perron, vous représentez un secteur d'activité ultra puissant qui est en pleine mutation, on peut le dire. Vous avez évoqué, par exemple, l'usage des bureaux qui aujourd'hui se transforment en logement. On parle beaucoup de régénération urbaine. Vos adhérents, d'ailleurs, aujourd'hui, réamorcent une transformation. D'ailleurs, même votre fédération s'est transformée, parce qu'elle a même changé de nom en quelques années. Est-ce que vous pourriez, de votre point de vue, nous décrire un petit peu, à l'égard plutôt de vos adhérents, avec le regard de la fédération, parce que vous avez cet avantage d'être sur plusieurs classes d'actifs, même si vous êtes majoritairement sur du tertiaire, et puis de réagir aux propos du député.
Merci beaucoup. Oui, alors effectivement, nous, on représente une fédération de propriétaires bailleurs d'actifs très majoritairement tertiaires. Mais comme vous le dites, il y a une mutation, il y a des projets extrêmement intéressants à l'heure actuelle de transformation de zones commerciales d'entrée de ville, ce qu'on appelle la France moche, en projets multi-usages dans lesquels vous avez des actifs sociaux, éducatifs, sportifs, etc., et des logements, une grosse partie de logements, ce qui permet simultanément de remettre les commerces en cœur de ville. Donc, en fait, vous touchez deux cases, en fait, création de logements et puis redynamisation.
C'est de la mixité d'usage, finalement,
qu'on réinvite en cœur de ville. Vous avez effectivement, vous en avez parlé, la transformation des bureaux en logements, mais qui est compliquée parce que vous avez une équation financière qui est difficile et qui peut être réglée partiellement par le bonus de constructibilité, c'est-à-dire la possibilité de construire plus de mètres carrés pour pouvoir rentabiliser l'opération. Mais malheureusement, ce bonus, on l'a en général quasiment jamais, donc ça freine beaucoup les opérations. Et puis nous, comme le fait la SOFIAP, on porte aussi une proposition de mesures à destination des employeurs pour pouvoir aider leurs salariés à se loger. Alors nous, ce n'est pas de la primo-accession, c'est de la location. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la participation des employeurs à l'effort de construction, la PEC, pour vous en libérer, l'entreprise peut construire des logements qu'elle loue à ses salariés. Mais construire, rénover, louer, c'est un métier. Et donc, vous avez des entreprises qui n'ont pas envie de se retrouver propriétaires de bâtiments qu'elles doivent gérer, etc. Et donc, elles se retournent vers des gens comme mes adhérents en leur disant, voilà, ça serait bien si vous pouviez nous construire ou nous louer des logements que nous, on va mettre à disposition de nos salariés. Et là, ça concerne par exemple, et je pense que le député sera sensible à ça, des zones dans lesquelles vous avez des nouvelles industries qui se créent. Vous êtes au milieu de la pampa, il n'y a pas de logement et l'entreprise, elle veut recruter du personnel qualifié et malheureusement, elle ne peut pas recruter parce qu'elle ne peut pas loger. Et donc, l'idée, c'est de dire, je vais demander à un spécialiste de la construction de me créer un bâtiment ad hoc pour loger mes salariés et puis en plus, incitatif comme vous le faites à la SOFIAP pour mes salariés, je vais le mettre gratuitement à leur disposition. Donc, vous avez un avantage en nature, mais en droit français, l'avantage en nature logement, il est extrêmement bas par rapport au prix de marché d'un loyer. Et donc, tout le monde serait content si c'était possible. Ce qu'on souhaiterait, c'est que donc, cette location soit une des dépenses éligibles à la PEC, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Alors, on va y revenir, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a un gros sujet, justement. La PEC, les amis, c'est la participation des entreprises à l'effort de construction. C'est une participation forfaitaire qui était équivalente sur la masse salariale à 0,45%. Exactement. Et à partir de 50 salariés, ça veut dire que ça exclut de facto toutes les entreprises. Avant, avec d'autres dispositifs, bien évidemment. Il ne s'agit pas de dire que les TPE, les PME sont hors champ. On va revenir justement là-dessus, puisque votre idée, bien évidemment, c'est de le mettre dans le cadre de l'effort de construction. Je rappelle que cette taxe, aujourd'hui, est collectée par un tiers collecteur qui s'appelle Action Logement Service, qui fait partie du groupe Action Logement, qui d'ailleurs est en passe de devenir une administration publique.
Alors juste pour ne pas nous fâcher avec ALS qu'on connaît bien, nous on ne demande pas que la totalité soit déductible, mais juste 50%. Donc on laisse 50% à Action Logement et on impute 50% sur
les loyers. Vous avez raison, vous savez, quand on est tiers collecteur de taxes publiques avec un statut paritaire, parce que c'est le cas d'Action Logement, le sujet, c'est justement qui a la main là-dessus. Mais on peut parler aussi des OPCO, vous savez, des organismes paritaires pour la collecte des fonds de formation, par exemple, qui est aussi un autre sujet. Et d'ailleurs, la transformation d'Action Logement Service, vous le savez, a été, aujourd'hui, le décret n'est pas passé, Bruno Le Maire ne l'a pas signé, pour devenir une institution publique et financière, ce qui détacherait quelque part le concept d'Action Logement. Mais c'est très intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a un impact politique. Merci Delphine. Je vais vous demander à vous, d'abord, présenter votre entreprise, Cairn Consulting. On ne va pas se priver de vous faire un peu de pub. Vous accompagnez les entreprises. Parce qu'en plus, non, mais c'est intéressant ce que je dis, parce qu'il y a un double sens dans ma question. C'est que, dans la transformation que vous faites pour les entreprises, la question du logement est capitale. Parce que, vous le savez, on ne peut transformer les entreprises sans les talents qui la composent, sans l'investissement du capital humain, et dans les éléments, on pourrait dire même un élément de hors-bilan, c'est-à-dire de valorisation du capital de l'entreprise, la question de l'accompagnement en termes de RSE et du logement est essentielle.
John. Tout à fait. Alors, pour présenter rapidement notre activité, comme je disais tout à l'heure, on fait du conseil opérationnel, en fait, hein, de transformation des entreprises. Donc, grosso modo, les entreprises ont défini des objectifs stratégiques, ont besoin de se transformer et ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, très qualifiée, pour réaliser ces transformations-là. On est dans un secteur très concurrentiel en ce qui concerne notre activité. On a, au-delà de notre conviction propre d'employeur de bien accompagner nos salariés, un besoin d'être à la fois attractif et puis aussi d'avoir des leviers pour retenir les talents que l'on
quand
a pris beaucoup de peine à recruter.
Quand vous dites concurrence, quand on est un bon consultant, concrètement, c'est un peu le mercato.
Oui, oui, il y a un peu de
non,
ça.
Non, mais, voilà. Non, mais on va dire les
choses.
On va dire les choses. Donc, si jamais je viens chez vous, que finalement l'entreprise me dit, bah, je vais vous payer 100% des intérêts, ou on va en parler tout à l'heure avec Laurent, ou la moitié des intérêts, effectivement, ça devient beaucoup plus sexy.
Voilà, donc on est en permanence à la recherche d'éléments un peu différenciants, parce que finalement, aujourd'hui, la question qu'on se pose en tant qu'employeur, c'est qu'est-ce qui, dans nos secteurs, en tout cas, qu'est-ce qui fait que un consultant va venir chez Cairn plutôt que chez n'importe quel autre cabinet de conseil.
Voilà. Bien sûr.
Donc,
bien sûr.
Quand j'ai vu l'offre de la SOFIAP au cours d'une émission télévisée, voilà, dimanche soir, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai trouvé ça très astucieux, novateur, différenciant. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion pour voir ce qu'on pouvait faire. Et donc, assez rapidement, on a décidé de mettre ça en œuvre avec mes trois autres associés.
Est-ce que vous avez déjà rendu éligibles certains de vos collaborateurs au dispositif?
Alors, éligible au sens l'offre est en place.
Et pour
on
l'instant,
a signé une convention. Alors, c'est tout récent, hein, ça date d'il y a deux semaines. Et on va en faire la promotion. Je ne doute pas que d'ici à la fin de l'année, surtout qu'il y a une offre promotionnelle qui est proposée par la SOFIAP là, pendant quelques mois, on est effectivement...
Il faudra que vous disiez à vos collaborateurs, vous savez qu'avec ce dispositif, vous leur faites cadeau, de 20 mètres carrés supplémentaires.
Oui, oui, tout à fait.
Vous leur faites cadeau, finalement, de la chambre du petit, qui était dans une contrainte, effectivement, etc. Ça a l'air de rien, mais tout ça concours au confort dans l'habitat. Merci. Alors effectivement, cette émission, vous aviez vu cette émission qui est parue dans Capital sur le logement, et c'était Michael Lenezet, le directeur général de la SOFIAP, qui faisait une démonstration dans l'entreprise Safran. Que Safran, je crois, a rejoint votre dispositif, Laurent Permas. Quand vous entendez Delphine Charles Perron, côté fédération, qui met des dispositifs extrêmement intéressants pour les collaborateurs de ses adhérents, la parole du député, bien évidemment, et de l'utilisateur, qu'est-ce que ça évoque pour vous, et surtout, comment on peut conjuguer, finalement, de façon efficace, la mise en place de ce type de solution? Je le rappelais tout à l'heure, on a quand même un exécutif qui a tardé très, très franchement à répondre à la demande. On va être très clair. 5 ministres du logement, avec une incertitude législative d'année en année, ce n'est pas toujours évident de s'y repérer, surtout quand on veut avoir accès au logement dans de bonnes conditions. Laurent Permas.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs chiffres qui frappent. Le premier, c'est notamment lorsqu'on met en place en tant qu'entreprise, un dispositif d'accompagnement pour l'accession à la propriété. Alors, c'est pour les primo-accédants, mais pas que. C'est pour l'accession à la propriété auprès de ses salariés. On vient juste traiter un sujet qui aurait dû être mis en place dans les avantages aux salariés, les avantages sociaux depuis quelques années. Lorsqu'on prend l'exemple de financer 2% du taux d'intérêt sur 25 ans, du prêt... du collaborateur.
Sur un taux moyen à...
À 4, on prend 4 et 2%.
C'est énorme.
Et ben, c'est 31 000 euros, un peu plus de 31 000 euros d'avantage dans le plan de financement. Donc c'est un apport.
Vous permettez aux gens d'avoir plus de mètres carrés et vous les resolvabilisez en même temps.
Exactement. C'est-à-dire que dans le plan de financement, puisqu'on est une filiale de la Banque Postale et la SNCF, on fait l'ensemble du plan de financement. Le dispositif qui permet en fait aux salariés d'être dans la norme des 35%, hein, vous avez eu un débat notamment public et parlementaire sur la norme HESF, hein, qui était éventuellement à bouger, en tout cas à ce qu'elle soit un peu plus haute pour que plus de Français puissent s'engager dans l'accession à la propriété au-delà des 35% d'endettement, ça n'a pas eu lieu. Et le dispositif en fait qui est mis en place, notamment dans le cadre du prêt subventionné par l'entreprise, eh bien, il permet justement aux collaborateurs d'être dans la cohérence des 35% d'endettement. Et je pense que c'est important à la fois d'accéder à la propriété et en même temps d'avoir en fait des charges qui soient gérables pour avoir des ressources suffisantes pour le quotidien. Hein, donc les 35% d'endettement sont quand même pas neutres. Un autre point qui est fort dans les échanges que je peux écouter et qui sont très intéressants, c'est que les dispositifs s'additionnent. En fait, vous avez énormément de dispositifs, et le député Labaronne le posait. Vous avez beaucoup de dispositifs en France. des dispositifs pour le prêt PTZ, pour Action Logement, qui fait un travail de fond important, notamment sur le prêt à 1% pour 30 000 euros. Tous ces dispositifs, en fait, se complètent et on le retrouve dans l'entreprise. Ils viennent en complément du prêt qui est pris en charge, pour lequel les intérêts sont pris en charge en partie par l'entreprise pour le collaborateur. Il peut avoir, en fait, un collaborateur peut avoir le PTZ, s'il est éligible, le prêt Action Logement sur l'accession à la propriété, hein, les 30 000 euros à 1%, la partie pris en charge par l'entreprise et le prêt complémentaire qui finance au taux du marché. Ça fait 4 taux, en fait, qui sont différents. Vous imaginez le pouvoir d'achat qui est rendu, en termes de pouvoir d'achat immobilier, c'est énorme.
Toutes ces solutions sont des solutions qui s'additionnent. Il y a un seul et même but dans notre pays, c'est de redonner à la fois du pouvoir d'achat aux Français, par là même leur donner plus d'espace, puisque ce mécanisme, vous me dites, hein, donne plus d'espace et resolvabilise. Je voudrais vous poser une question, monsieur le député. Alors, c'est pas une critique politique, mais on voit bien que quand même, voilà, 4 gouvernements, 5 ministres du logement. Qu'est-ce qui explique, selon vous? Alors, c'est pas la faute forcément d'Emmanuel Macron, hein, je dis pas le cas. D'ailleurs, on a daté, j'ai repris le nombre d'autorisations d'urbanisme et de permis de construire depuis 1982, depuis plus de 40 ans. Et on a le même chiffre, voire même un peu moins. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à adapter les politiques publiques, si vous avez un regard de l'économiste que vous êtes d'ailleurs, à un monde contemporain où on vit des moments démographiques et des moments sociétaux particuliers? Je prends juste un exemple. La décohabitation, le phénomène de qu'on appelle de décohabitation, a doublé sur les 20 dernières années la demande de logement à périmètre démographique constant. Mmh. Quel est votre regard, vous, du politique?
Moi, je voudrais quand même beaucoup relativiser les choses. Parce qu'en définitive, quand on regarde la production de crédit à l'habitat à travers les statistiques de la Banque de France, quand est-ce que ça chute? Ça chute, en définitive, mi-2023. On était à un point très très haut en 2021, bien sûr, avec des taux d'intérêt extravagants, et on produisait par mois 20 milliards de crédits à l'habitat. Et puis les taux d'intérêt commencent à décroître, et on voit que la production à l'habitat, de crédits à l'habitat, commence à baisser. Mais pas à chuter considérablement. Cette chute, elle intervient fin 2023-2024.
Tout à fait.
Voilà. Où on se retrouve aujourd'hui avec une production de crédit à l'habitat autour de 7 ou 8 milliards par mois. Mais
on est sur une chute de plus de 50%.
Oui, ouais. Mais par rapport à des taux extravagants et des niveaux de production qui étaient anormaux.
Vous voulez dire qu'on revient à un phénomène de régulation?
Alors, la Banque de France nous dit, en fin de compte, la production de crédit à l'habitat revient avant la situation de ces taux d'intérêt très, 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 très bas. Bon, ça, c'est le premier phénomène. On a par ailleurs une production de logements en France qui est très largement supérieure à ce que l'on observe dans les autres pays européens. Je veux pas faire de pousser de cocorico, mais enfin, quand même, il faut regarder la situation en face. On a par ailleurs un système bancaire qui propose des taux d'intérêt à taux fixe et pas à taux variable. Et ça, c'est aussi un avantage très 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 important. Quand vous dites, on a mis du retard à l'allumage au niveau des pouvoirs publics. Écoutez, on constate qu'il y a une chute ou une baisse significative de la production de crédit à l'habitat fin 2023. En 2024, 6 mois plus tard, on propose un projet de loi au Sénat.
Uniquement de l'accès au crédit, monsieur la baronne.
Oui,
j'évoque aussi la production de logements sociaux, dont vous savez que le nombre d'autorisations a chuté de plus de 25% sur les 2 dernières années. Là, c'est un pouvoir régalien. Oui. Et la politique en matière de logements neufs. Je prends juste un exemple qui a favorisé la fluidité du marché locatif privé. C'est la loi Pinel. Qui s'appelait peut-être Meignerie avant, qui s'est appelé Périssol, qui s'est appelé Cellier, qui a toujours accompagné la production de logements.
Oui, mais vous parliez d'incertitude dans le domaine législatif, s'agissant du logement. Ça fait plus de 2 ans que nous annonçons la fin du Pinel à fin 2023. Donc on a très largement...
Remplacé par rien.
remplacé par rien, mais attention, d'abord, nous sommes dans un contexte budgétaire un peu contraint. Beaucoup d'études ont montré que ce n'avait pas forcément l'effet levier que les professionnels de l'immobilier pouvaient le dire. Ça coûtait très très cher pour une production de logements qui était pas forcément très 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 importante. Moi, je me suis beaucoup battu dans toutes les assemblées générales auxquelles on a bien voulu m'inviter en disant il faut qu'on mette en place des dispositifs qui soient beaucoup plus efficaces et qui aient des vrais effets de levier. Il faut, par exemple, qu'on libère le marché du logement intermédiaire, qui était, de manière totalement incompréhensible, complètement corseté. Il faut qu'on donne plus de marge de manœuvre aux élus. Il faut qu'on simplifie les procédures permettant de construire plus vite et en réduisant les délais de recours. Il faut qu'on fasse en sorte que on ait des dispositifs de taux d'intérêt qui soient adaptés à toutes les situations de logement. On a évoqué à l'instant la palette des taux d'intérêt possibles qui permet en définitive à un primo-accédant, quelqu'un qui veut investir dans le logement, d'avoir des taux d'intérêt qui sont encore, enfin aujourd'hui, relativement bas comparé à ce que l'on peut voir dans les autres pays européens. Donc je crois qu'il y a des phénomènes d'attentisme, je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que le contexte est un peu anxiogène. Voilà, on est en plus en période électorale, on est dans un contexte géopolitique, etc. Bon. Et puis, il y a l'idée que les prix de l'immobilier vont baisser. Or, les prix de l'immobilier en France n'ont pas suffisamment baissé. Quand on compare ce que l'on observe dans les autres pays européens, en Allemagne par exemple, les prix de l'immobilier ont baissé de manière tout à fait significative. Et ça a eu un effet positif sur la demande, bien évidemment.
Oui, à la différence que l'Allemagne a 70% de sa population qui est locataire et à peine 30% de propriétaires. Et que le système de pratique des loyers, de ce qu'on appelle le miroir des loyers en Allemagne, notamment à Berlin par exemple, pose bien avant ce qu'on a appelé le contrôle des loyers et les loyers réglementés, vous savez, l'encadrement des loyers, qui était un usage tout à fait. Je suis pas sûr que la comparaison soit évidente, monsieur le député, parce que vous disiez une chose, on a produit du logement, vraiment produit du logement grâce effectivement à la perfusion ou aux niches fiscales qu'ont incarné le cellier. N'empêche que c'était du donnant-donnant. Quand vous prenez la loi de Normandie, qui est toujours valide aujourd'hui, dans l'ancien, c'est du donnant-donnant. En rénovant, on permet de réguler les loyers. Je veux dire, comment vous accompagnez? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Parce que quand on entend votre discours, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux promoteurs immobiliers qui vous écoutent, à part le fait de se dire, ben finalement, il n'y a plus de relais de croissance?
Non mais on peut
c'est
pas non
évident, ce que je veux dire.
Oui, mais comprenez. On peut pas non plus asseoir une politique publique uniquement sur des mécanismes d'incitation fiscale.
On est d'accord.
D'abord parce que ça coûte très très cher à la puissance publique. Par ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'effet de levier de ces mécanismes fiscaux était dans certains cas des mécanismes d'effet d'aubaine en définitive et que ça n'atteignait pas l'objectif qui était de construire là où on en avait le plus besoin. Bon, par conséquent, on a toiletté tous ces dispositifs fiscaux pour avoir des dispositifs les plus efficaces qui fonctionnent. En faisant recours, en ayant aussi une philosophie politique qui consiste à davantage faire marcher les mécanismes de marché et pas à être en permanence infusé par la puissance publique.
Ça s'explique, bon. Tout à fait.
Donc, cette orientation nouvelle, elle se traduit par quoi ? Par le fait que on va redonner la main aux élus locaux, on va favoriser les synergies entre le secteur privé et le secteur public, bailleurs sociaux et constructeurs privés. On va faire en sorte de remettre sur le marché des logements sociaux en les vendant à leurs locataires. Enfin bref, on va remettre un peu d'ordre économique dans le secteur du logement en misant peut-être davantage sur les mécanismes de marché que sur les mécanismes d'incitation fiscale.
Merci, monsieur le député. Delphine, cette préoccupation, elle est réelle hein, parmi les adhérents, celle de loger les collaborateurs et d'essayer de compresser. Si, de point de vue, finalement, même toute classe d'actifs confondue, on se dit que finalement, c'est grâce à ces différents dispositifs que l'on arrive à conjuguer ou à endiguer la hausse des prix de l'immobilier. Et je rappelle également que votre fédération bénéficie d'un régime fiscal aussi attractif, hein, qu'on appelle le régime SIC, me semble-t-il.
Oui, alors effectivement, on en a parlé, il y a un panel de mesures. Moi, je souhaiterais parler d'une catégorie nouvelle et particulière d'adhérents qui nous ont rejoints, qui sont les foncières solidaires, qui sont dans le logement très social, qui font un travail absolument remarquable.
C'est de l'économie sociale,
oui. Et qui logent les travailleurs modestes.
soit en appartement, soit dans des résidences gérées. C'est-à-dire qu'en plus, vous avez un accompagnement pour remettre des personnes en situation difficile sur le marché du travail, etc. Ça, par rapport au placement dans des hôtels, etc., par l'État, ça coûte 2,5 fois moins cher à l'État français de ces foncières solidaires. Et là aussi, il y a une mesure qu'on porte, qui est de demander à ce qu'on puisse permettre aux entreprises également de se libérer de la PEC, donc on est toujours sur le domaine de la PEC, en souscrivant au capital de ces foncières solidaires, ce qui leur permet un apport de cash, qui leur permet de développer des nouveaux projets, donc de nouveaux travailleurs modestes qui peuvent être logés.
C'est finalement d'un système à la fois de capitaux, mais aussi de démocratie, d'économie sociale.
Exactement.
Ça doit être des SCIC, notamment des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont en fait, qui mélangent du capital et de la... Je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que ça veut dire que votre fédération s'ouvre largement sur d'autres acteurs de l'immobilier? Est-ce que c'est un signe aussi de redéploiement?
Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez différentes catégories de propriétaires bailleurs qui ont des préoccupations identiques en ce qui concerne les normes de construction, la construction bois, les autorisations, etc. Et donc, une foncière solidaire ou une foncière spécialisée dans les actifs tertiaires, les centres commerciaux, ils ont beaucoup de points communs sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de leurs travaux. Et donc, nous, dans nos groupes de travail, nos commissions, l'idée, c'est que tout le monde discute et que les gros qui ont plus de ressources et de moyens en personnel aident les plus petits, notamment les foncières solidaires, en mettant à leur disposition leur savoir, qui est un partage d'expériences et de bonnes pratiques. Et c'est très bénéfique à tout le monde.
Merci Delphine Charles-Perron. John, avant qu'on va arriver sur la dernière partie de notre émission, on va faire une conclusion. Vous êtes un consultant, c'est-à-dire que vous m'avez dit tout à l'heure que des entreprises comme la vôtre doivent être attractives. Donc elles doivent aujourd'hui, en matière de RSE, en matière d'accompagnement, disposer d'une palette avec le motif pour l'entreprise de garder, de fidéliser ses collaborateurs. C'est bien votre objectif. Est-ce que vous pensez que les entreprises de services telles que la vôtre, où vous produisez finalement ce qu'on pourrait appeler du jus de cerveau, ça sera la solution qui va les attacher? Parce qu'on regardait les rotations dans vos métiers, effectivement... Ça bouge beaucoup et je comprends votre préoccupation. Est-ce qu'il n'y a pas là finalement un peu une martingale qui vous permettra de concentrer un peu plus vos collaborateurs? Deuxième élément pour votre réflexion, c'est la durée moyenne d'un primo-accédant dans le logement. C'est 8 ans. Donc on pourrait aussi imaginer dans votre gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences que vous puissiez avoir un taux de rotation équivalent à la détention. Parce que je crois, et Laurent nous le dira tout à l'heure, que quand le salarié quitte l'entreprise, il repaye le taux normal qui ne sera pas pris en charge du coup par l'entreprise.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire, on cherche à fidéliser, effectivement, la personne part de l'entreprise, elle ne bénéficie plus de cet avantage, comme certainement d'autres avantages d'ailleurs qui peuvent être accordés par les entreprises. Pour revenir sur ce que vous disiez, en fait, on a ce besoin de fidélisation, effectivement, donc je disais, besoin de se différencier aussi. On fait beaucoup de choses en matière de RSE, voilà, et parce qu'on est convaincu que voilà, il faut bien accompagner nos collaborateurs. On a trouvé là avec ce mécanisme de la Sofiab, de notre point de vue, un mécanisme intelligent de redistribution de la valeur, pardon. Voilà, plutôt que de verser des primes, on peut aussi se référer à ce type de mécanisme, encore une fois, qui se différencie par rapport à ce qu'on pouvait trouver jusque-là. Et ensuite, il ne faut pas oublier. Alors, j'entendais beaucoup les chiffres qui étaient évoqués. De façon très pragmatique, aujourd'hui, dans nos métiers, on va chez nos clients, donc, qui sont des clients en région parisienne principalement, et donc on a une problématique de temps de déplacement de transport qui doit être réduite. Voilà. Et aujourd'hui, notamment les primo-accédants, quand ils cherchent à se loger en Paris ou proche banlieue, c'est extrêmement compliqué, ça va être des toutes petites surfaces, des apports de plus en plus importants, etc., etc. Donc on cherche vraiment à les accompagner dans ce sens-là aussi. Et à contrario, on a aussi évidemment beaucoup de télétravail dans les services. Ils font un minimum de surface pour être à l'aise, vous l'évoquiez tout à l'heure, ne pas être dans un... Si on est parfois même, on a des couples aussi de jeunes consultants qui sont chez nous.
Avec le Covid, ça a été foudroyant.
Exactement, voilà. Donc ça a beaucoup transformé les choses. Et on a besoin d'un minimum de confort, de surface. Donc tout ça cumulé fait que cette offre-là et ce vecteur de fidélisation nous paraissait complètement évident.
Merci beaucoup, John Zanelli. pour conclure ce premier épisode, on voulait vous donner, bien sûr, les amis, décrypter l'actualité, plutôt débattre autour de ces sujets. Cette collection contient 4 numéros, donc on approfondira bien sûr toutes ces questions. Laurent Permas, réaction sur tout ce qui s'est dit et une conclusion, puis de rappeler qu'effectivement, votre mécanisme finalement est intéressant pour l'entreprise, puisque si le salarié qui bénéficie du prêt subventionné quitte l'entreprise, il repaye le taux normal. C'est ingénieux pour l'entreprise lorsqu'il ça le fait réfléchir à partir, non ?
Oui, mais c'est comme vous le rappeliez, c'est comme d'autres dispositifs, hein, le petit restaurant, la mutuelle. Enfin, moi j'ai envie de dire en conclusion, il y a des évidences, et lorsqu'il y a des évidences qui sont déjà utilisées par des entreprises, eh bien, faut les mettre en place, faut les pérenniser. Et pour les pérenniser, c'est notamment au travers de projets de loi. Puisque, en l'occurrence, projet de loi de finances, notamment avec le député La Baronne qui le porte, c'est d'avoir une exonération identique à celle de l'épargne salariale, à celle des titres restaurants. Voilà, c'est posé de façon pérenne.
Des charges
patronales, bien évidemment, bien puisque, sûr. Une partie en tout cas, ça c'est important, puisque l'entreprise c'est elle qui finance, et donc ça protège aussi le budget de l'État. Hein, donc c'est l'entreprise qui est volontaire, qu'il met en place, et donc cette mise en place, eh bien, c'est la contrepartie de pouvoir poser une exonération partielle des charges patronales, au même titre que vous l'avez sur le titre restaurant, sur le CESU et sur l'épargne salariale. Ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que c'est une évidence, et lorsque elle est là, eh bien, il faut la pérenniser. Le deuxième point, c'est qu'il y a aujourd'hui une France qui est en crise, qui est la France dite des classes intermédiaires. Et en fait, cette classe intermédiaire, elle est le ventre mou de la France. Et c'est là où ça devient plus préoccupant.
C'est
parce que.
La classe moyenne ?
Oui, mais pas que. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quasi impossible d'acheter à Paris ou. Voilà. Même si vous êtes à deux avec un salaire de 4000 euros ou 4005. Et ce qui est quand même largement au-dessus, si vous voulez, du salaire minimum. Et donc, on a des dispositifs en France qui sont là, fort heureusement, pour pouvoir accompagner les revenus faibles et notamment toute la dimension sociale, toute la palette sociale qui existe, il manque cette offre, en fait, hein, on parle de choc, eh bien, il manque justement pour accompagner ce choc d'une crise du pouvoir d'achat immobilier, eh bien, d'accompagner une classe intermédiaire, même un peu plus large, pour pouvoir accéder à des zones tendues qui ne sont pas que Paris, qui sont sur toute la France aujourd'hui. Parce que je reviens sur ce point, pendant 20 ans, on était très content d'acheter et de faire des plus-values. Mmh. Et là, aujourd'hui, il y a un écart. Bon, ben, on résout cet écart parce qu'il y a du télétravail, il y a une nouvelle organisation du travail qu'il faut prendre en compte et les entreprises l'ont pris en compte, mais il faut juste les aider pour qu'elles puissent le pérenniser. En fait, c'est très clair, très simple. Donc, on a des dispositifs sociaux qui sont là et qui sont pertinents, qu'il faut encore plus faire savoir, que ça soit dans l'accession à la propriété, que ça soit dans le logement au travers de la location. Et puis, vous avez l'entreprise qui doit jouer son rôle de régulateur sur l'ensemble des classes sociales qui sont des salariés, hein, des femmes et des hommes qui travaillent tous les jours et pour lesquels on doit les accompagner dans la bonne continuité, puisqu'une entreprise, elle est là aussi pour créer de la valeur ajoutée, comme vous le précisiez.
C'est très clair. Merci beaucoup, Laurent Permas. Il est temps de nous quitter. Je vous propose un jeu pour conclure, si vous voulez bien. Un jeu rapide, un jeu qui nous fait penser à notre ami Bernard Pivot, qui nous a quittés récemment, qu'on a beaucoup aimé, et qui a cultivé toute une génération, voire plusieurs générations. Je vais vous demander à chacun, si vous voulez bien, de donner un mot, un adjectif, qui, très spontanément, naturellement, qui viendrait à votre esprit pour illustrer les propos que nous venons d'échanger. Je vais commencer par vous, Delphine.
Bienveillance.
Bienveillance. Monsieur le député.
Intermédiaire.
Intermédiaire. Vous aimez beaucoup ce mot, intermédiaire.
Oui, mais parce qu'on a une problématique importante en matière de logement intermédiaire pour les classes moyennes.
Très juste. On rappellera d'ailleurs dans un prochain numéro ce qu'est exactement les classes intermédiaires. C'est extrêmement intéressant. John.
Sans aucun doute, accompagnement.
Accompagnement. Laurent Permas.
Pour tous.
Alors, un mot. Il me faut un seul mot.
Eh bien... Tous.
Alors, pour pouvoir promouvoir le logement intermédiaire, encore faut-il faire preuve de bienveillance dans un accompagnement pour tous. Bravo. Ce sera la conclusion de notre émission. Le premier numéro, premier opus de Entreprise et Habitat, construit avec les équipes de Radio Immo, de Radio Territoria et toute notre rédaction et les équipes de la SOFIAP. Nous vous retrouverons pour un prochain numéro. Cette collection contient 4 numéros. Nous n'éluderons aucune question. C'est le pari éditorial que nous avons fait avec les équipes de la SOFIAP, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement d'avoir participé à la préparation de ce numéro. Merci également aux équipes de Radio Immo de Territoria, Baptiste, Théo, Grégoire et toutes les équipes de la rédaction. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à Delphine Charles-Perron, déléguée générale de la Fédération des entreprises immobilières. Merci d'être venue sur le plateau. Un grand merci à Daniel Labaronne, député de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Merci, monsieur député, d'être venu sur le truc. Et vous avez d'ailleurs publié, je le rappelle aussi, quelques ouvrages en matière de macroéconomie, dont un dont je me rappelle, qui a été extrêmement intéressant. Vous avez d'ailleurs été enseignant à l'Université de Bordeaux, avec laquelle nous travaillons aussi beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau. Un grand merci à John Johnny Lee, associé au cabinet Kern Consulting, pour les transformations des entreprises dans l'assurance et dans le transport. Merci. Je pense qu'on mériterait d'avoir beaucoup plus d'entrepreneurs comme vous, qui se soucient de leurs salariés. En plus, c'est hyper ingénieux parce que ça les retient et en même temps, ça leur plaît, ce qui est une très bonne chose. Un immense merci également à Laurent Permas, président du directoire de la SOFIAP. Merci Laurent, ça s'est bien passé pour une première.
Merci Sylvain, voilà. C'est très riche d'échanges.
Voilà. Et merci encore une fois de votre participation. D'ici le prochain numéro, prenez soin de vous.
Entreprise et Habitat, une émission proposée par SOFIAP, à réécouter et télécharger sur les sites et applications de Radio Immo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.